Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois un monsieur de fou de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-le, Nicolas, il sait de quoi il parle. Oui, parce que Nico a dû foncer présenter son hurlequin, donc j'ai dû quitter la bourboule en urgence et lire son conducteur, hein, parce que oui, on dirait pas comme ça, mais il travaille le bougre. Salut les amis.
Hello.
Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est la toute première fois de l'histoire de réaliser son trucage
qu'on a
que
un
le
switch.
Présentateur ne sait pas ce qui a marqué dans son conducteur.
Là, je suis à l'aveugle.
Allons-y, let's go, ça me
mais
plaît.
On va faire confiance à Nicolas, je vais ajouter un petit peu ma patte.
Oui, bah,
vous imaginez ?
Je me doute.
Dis donc, vous auriez pas changé de bord politiquement depuis la semaine dernière ? Non, parce que là, on va parler pendant presque une heure de rêve mouillé de Gérald Darmanin. Ça va, vous êtes ? Ok ? You're gonna be a bad mother.
Half man. This guy is really good.
Half machine.
RoboCop. What is he?
He's a cyborg, you idiot.
All hero.
What are your prime directives?
Protect the innocent.
Let the woman go,
or there will be trouble.
Uphold the law.
You are under arrest.
RoboCop de Paul Verhoeven avec Peter Weller et Nancy Allen qui ressort en salle chez Splendor Film.
Ouais.
Alors pour commencer, comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, est-ce que quelqu'un pourrait nous présenter un petit peu qui est Paul Verhoeven pour les gens qui ne connaîtraient pas bien son cinéma ? Peut-être Simon, pour commencer ?
Paul Verhoeven, il a cela d'intéressant qu'il peut paraître un peu rétif à l'analyse. On pourrait dire comme ça, tiens, c'est un immense réalisateur de films d'action et de blockbusters d'action subversifs. On va dire en détail en quoi RoboCop l'est, mais c'est par exemple ce type qui s'est dit, tiens, pour dire un petit peu comment ça part en cacahuète en Occident et spécifiquement en Amérique, je vais faire un film de science-fiction adapté d'un roman de science-fiction problématique. Je vais le tourner comme un clip fasciste. Starship Trooper, il l'a tellement bien fait qu'il y a encore des gens à peu près tous les 10 ans qui sur les réseaux sociaux se réveillent, soit pour dire, c'est merveilleux, enfin un film fasciste, soit pour dire c'est affreux, enfin un film fasciste. Et en fait, Verhoeven, c'est ça, c'est toute cette ambiguïté, celle de reconnaître, d'aimer et d'embrasser une certaine qualité guerrière ou martiale du spectacle, tout en la critiquant et tout en faisant aussi la critique d'une certaine vulgarité de nos sociétés contemporaines et de la vulgarité de l'Occident. Et pour comprendre ça, bah, il faut retourner un tout petit peu vite fait à la biographie de Verhoeven qui, dans ses jeunes années, va se passionner pour les arts créatifs, les arts plastiques, le cinéma, notamment, et ce sera intéressant pour la partie la plus récente de sa carrière, pour le cinéma français, européen en général, mais français en particulier, et la nouvelle vague. Et puis, M. Verhoeven va aller faire le service militaire. Il est hollandais, il vient des Pays-Bas, donc il fait le service militaire aux Pays-Bas, tout simplement parce qu'il s'est présenté trop tard au concours de l'IDEC, ce qui deviendra la FEMIS, parce qu'il a fait des études en France. Et bah donc il se retrouve dans l'armée, il travaille pendant quelques temps au design des armes et je crois des missiles, j'ai un doute sur les missiles, mais des armes.
Ah ouais.
Et puis ses goûts et puis les rencontres qu'il va faire vont l'amener à travailler pour les services de propagande et de documentaire de l'armée. C'est là où il va apprendre concrètement les techniques du cinéma, va les parfaire plutôt. Mais surtout, il faut bien voir ça, c'est que c'est un artiste, un créatif qui se retrouve dans l'industrie, la machinerie de la propagande, du discours pensé par et pour la guerre. Et ça va finalement lui permettre d'amener la subversion là-dedans parce qu'il en connaît les mécaniques intimement. Et s'il y a bien un film qui pourrait ressembler à un film de propagande et qui a parfois été compris comme tel par nos parents, hein, je parle pour nos générations, nos parents qui nous l'ont montré, qui nous ont dit « Tiens, allez, un petit film d'action pour les enfants, c'est un flic robot, ça va bien les faire rigoler !» Sauf que RoboCop, qu'est-ce que c'est ? Sous ses airs de grand film d'action spectaculaire, ce qu'il est, parce que c'est un grand film d'action, c'est aussi un des films les plus violents, un des réquisitoires les plus implacables contre le libéralisme.
Non mais c'est exactement ça, je vais vous laisser la parole, hein, mais juste effectivement pour bien comprendre, ce point de vue-là que les gens ont sur le cinéma de Verhoeven qui ne comprennent pas le fond du message, en fait, c'est quelque chose qu'il a eu, malheureusement pour lui, un peu toute sa carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ont vu Robocop en disant « Mais dis donc, c'est un film pro-policier, c'est incroyable !» Bah, en fait, si tu regardes un petit peu pas, Starship Trooper, évidemment, je pense à Showgirls, qui a été, jusqu'à il y a même pas très longtemps, bah, c'est un film très misogyne.
On en parlait avec Alexis, moi je disais que ça faisait même pas 10 ans qu'il commençait à être réhabilité.
Ah ouais, même pas,
en fait, par les sphères assez pointues de la cinéphilie, ça fait maintenant un peu plus longtemps, mais c'est une réhabilitation qui a mis vraiment pas mal de temps à arriver dans les sphères les plus grands publics.
Bah, en plus, ce qui est propre à Verhoeven, c'est de choisir ou des acteurs ou de créer des personnages qui sont en apparence très lisses. C'est pas pour rien qu'il prend des plastiques un peu parfaites. Mmh. On pense souvent... Il y a toute une génération qui est marquée par Basic Instinct. Il a pris quand même une femme qui correspond à tous les critères de beauté pour les détourner vers le sulfureux. Il va transcender complètement l'esthétique de ses personnages. Et même là, il le fait avec la science-fiction, comme il l'a fait aussi avec Starship Troopers. Et Showgirls, pourquoi ça a été super mal vu? C'est parce que c'est considéré comme un film super vulgaire. Et vulgaire parce que les personnages le sont, mais le discours ne l'est pas. Et il y a encore des débats sur Elle, un de ces films français les plus récents avec Isabelle Huppert, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, c'est quand même un film pro-viol. »
Oui, ou c'est un téléfilm sous chabrolien, alors que c'est aussi une critique d'un certain cinéma français dans la forme.
En fait, c'est ça. Il y a toujours au moins trois strates de lecture avec Verhoeven. Et ce qui est fascinant, c'est que moi, je trouve qu'il y a toujours une espèce de dynamique narrative extrêmement jouissive. Ce qui peut en plus parasiter la lecture critique. Parce que des fois, quand on est emporté et que le film ne nous laisse pas le temps de faire la réflexion sur son sujet, sur la manière dont il joue, bah, c'est vrai que quand tu vois Isabelle Huppert prendre du plaisir dans un viol, bah, d'un coup, t'as tellement envie narrativement de savoir vers où le film va que tu prends pas le temps d'analyser comment il tourne la scène. Et en fait, il le fait dans tous ses films. Et je pense que sur Robocop, c'est aussi assez criant.
Mais oui, parce que Robocop sur le papier, c'est quoi? C'est dans un futur proche qui fonctionne encore aujourd'hui, il faut le dire, 40 ans quasiment, enfin 35 ans après la création.
2028, précisément. Donc dans 4 ans, le film ne sera plus un film de science-fiction futuriste.
Oui, non, mais je veux dire un film de 87, tu vois. Ah bah ouais, non, 35 ans après sa création, sa vision d'un futur proche fonctionne encore à peu près totalement. Donc on est à Détroit. Détroit qui est une ville sur le point d'être privatisée. Il y a Omnicorp qui est en train de découper la ville, de découper les services publics, un petit peu ce qui arrive en France et ce qui est arrivé dans pas mal d'autres pays du Nord global il y a déjà quelques années. Et notamment, lorsque le film commence, on vient de privatiser la police. Et dans le cadre de cette vaste opération, pour faire passer la pilule tant auprès des policiers que du public, eh bien on va profiter de la mise à mort particulièrement brutale d'un policier pour adjoindre à son cadavre les dernières innovations en robotique et faire de lui Robocop, un policier qui coûte pas cher parce que c'est une machine, qui a pas de problème de salaire, qui travaille 24 heures sur 24, qui vise super bien et qui va taper sur les méchants. Sauf que ça va être plus compliqué que ça.
Bah oui, complètement. En fait, je vais faire une petite parenthèse historique, mais je crois que c'était à la Cinémathèque française il y a quelques années de ça maintenant, où Paul Verhoeven avait donné une masterclass dans laquelle il avait justement parlé de Robocop. Il faut préciser, Robocop, c'est un projet de commande, comme d'ailleurs, je crois, à peu près tous les films qu'il va tourner aux États-Unis, puisque c'est un peu comme ça que fonctionne Paul Verhoeven à l'époque. Il s'accapare des projets, somme toute impersonnels, pour faire rentrer dedans ces thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reçoit le scénario de Robocop. À l'époque, il a déjà fait un film américain, en tout cas à moitié américain, qui était La chair et le sang, qui était aussi produit par plusieurs sociétés européennes.
Bah, c'est un Europudding, en fait. C'est
exactement, ouais.
Un espèce de mélange de prod.
De mélange de prod et de nationalité. Et donc, 2 ans après la sortie de La chair et le sang, qui va pas très bien marcher au box-office, on lui propose de réaliser Robocop, qui est vraiment une série B d'action. Et Paul Verhoeven explique à l'époque, il lit le scénario, et il est pas particulièrement convaincu par ce qu'il lit, ça l'intéresse pas beaucoup. Il le jette. Sa femme récupère le scénario et lui dit « Écoute, j'ai jeté un petit œil au truc, je te connais quand même suffisamment bien maintenant pour savoir que, à mon avis, c'est un projet qui peut t'intéresser. » Et Paul Verhoeven, qui fait confiance à son épouse, avec laquelle il est marié, je crois, depuis bientôt 60 ans, un truc comme ça, il relit le script et en fait, il se rend compte que Robocop est une sorte de version américaine et over-capitaliste de Jésus-Christ. Jésus étant une figure qui intéresse énormément Verhoeven, il a même d'ailleurs écrit un livre sur Jésus, vous avez certainement vu passer cette couverture mythique où c'est la tête de Jésus mais façon Che Guevara, c'était le bouquin que Paul Verhoeven lui a consacré, et en fait il lit le truc et il se dit effectivement c'est Jésus, c'est un mec qui va ressusciter et devenir une sorte de prophète, sauf qu'on n'est plus à l'époque biblique, les prophètes c'est plus des gens qui marchent dans le désert en sandales pour dire qu'il faut croire dans un dieu unique, non, c'est des flics qui ont des flingues super puissants et qui déglinguent des truands, et en fait tout le film peut s'interpréter autour de cette métaphore et de ce rapport à l'imagerie christique, qui est très importante encore une fois dans le cinéma de Verhoeven.
Nicolas avait écrit dans son conducteur, je vous lis la phrase telle quelle parce que je ne comprends pas forcément bien ce qu'il veut dire par là. Fils caché de Blade Runner pour scénariste Edouard Nemire. Alors je crois que ce qu'il veut dire c'est qu'effectivement, donc tu l'as dit, c'est un film de commande, c'est un film scénarisé par un certain Edouard Nemire qui, je crois, donc c'est le premier scénario et qui, je crois, quand il a commencé sa carrière, lorgnait du côté de Blade Runner. Genre, je crois que ses bureaux étaient à côté du tournage et donc il a pu un peu voir ce qui se passait et que c'est à cet endroit-là qu'il a eu envie d'écrire ce scénario. Néanmoins, est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien entre Blade Runner et Robocop ?
Bah, il est intéressant de comparer comment les deux films vont traiter de la robotique, plutôt de la cybernétique, aurait-on dit à l'époque. En fait, en gros, de l'humain artificiel. Parce que le personnage interprété par Peter Weller, dont il faut souligner la performance, il a été choisi parce qu'il avait un passif de danseur. Et c'est quand même incroyable ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il joue l'homme qui avance comme un robot dans un mauvais clip de techno, sauf que lui, c'est dans un bon clip de techno. Non, vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il fait en termes de mouvement, quoi. C'est alors remarquable.
Petite anecdote écrite par Nicolas, hein, je remets à César ce qui vient à César. Apparemment, il perdait 1,5 kg par jour à cause de la lourdeur du costume.
Ouais. La grosse excuse pour manger du KFC, quoi. Il me faut beaucoup de fast-food, je perds 1,5 kg par jour. Mais bref, oui, alors il y a effectivement une connexion sur, enfin en tout cas une passerelle thématique sur comment va-t-on traiter l'humain artificiel. Ce que je trouve encore une fois brillant chez Verhoeven, c'est que bien sûr tu t'attends à quelque chose qui soit entre Frankenstein et le retour du refoulé, à savoir quand est-ce que ce robot va se rappeler qu'il a été un humain. Et là où le film est à la fois très fin, tragique, à une audace dramaturgique que je trouve folle, c'est que le film ne te dit pas à un moment ce robot va se retrouver ses souvenirs et devenir humain. Il reste un robot dont la mémoire a été complètement effacée, mais c'est toujours une machine qui dit mais j'ai des restes de quelque chose que je ne comprends pas. Et il ne sera jamais un humain auquel on peut complètement s'identifier. Et ça, ça le rend tragique. Parce qu'à la fois, il est plus qu'un amas de circuits, il est bien traversé par des émotions, mais pour lui, ces émotions ne sont rien de tout à fait palpable et jamais il ne redeviendra Murphy. Oser dire, mon héros, mon personnage, ça n'est pas un héros en lutte pour son humanité qui va la retrouver, mais c'est un héros en lutte pour constater qu'il n'y a plus d'humanité à retrouver, c'est très beau. Et c'est très différent des Nexus de Blade Runner qui, eux, atteignent l'humanité par la rébellion. Ce sont des êtres programmés, mais parce qu'ils prennent conscience de leur programmation et font un pas de côté finalement, sont plus humains que les humains qui, eux, suivent leurs ordres et donc s'avèrent programmés.
Moi, il y a un truc qui me passionne dans le film que j'ai vu maintenant quelques années, mais qui me reste beaucoup, c'est effectivement, c'est du Verhoeven, donc oui, c'est un peu crasse-pouille. Il n'est pas possible qu'il y ait un ennemi qui fonde et c'est un peu dégueulasse. Mais aussi, il y a un vrai travail, un vrai savoir-faire sur les effets spéciaux. Je pense notamment à une séquence où on voit une espèce de robot géant qui est animé en stop-motion. Donc
ED-209.
Ah ouais, d'accord, on est à ce niveau de...
Pas du tout.
D'accord.
Il a même pas de notes.
C'est vrai qu'il m'a regardé droit dans les yeux.
Oui, mais moi je fais partie de la génération, nos parents étaient complètement inconscients. Moi, on m'a offert la VHS, je devais avoir 6 ans et j'avais le jouet du ED-209.
Ah ouais,
bien sûr. Et tu sais, nos parents étaient là...
Ça explique tellement de choses.
mais pour nous c'était surréaliste, tu vois, on était tout petits, on était à peine en primaire et nos parents étaient là... Peut-être que Dragon Ball Z c'est violent et nous on est là. Et les mecs, vous nous filez des films. Je veux dire, la première scène, c'est un bureaucrate, c'est un salopard de bureaucrate trader qui se fait déboîter par un robot en film et vous êtes là. Peut-être que Son Goku il crie fort quand même.
Et bien du coup le ED 209. Ouais, bref, vous avez compris, le gros robot, quoi. Il est en stop motion et tu sens qu'il y a quand même une volonté de... C'est un peu de la débrouille parce que c'est pas exactement du image par seconde, il est un petit peu saccadé.
Il y a une inspiration Ray Harryhausen qui est évidente en plus, de toute manière. Voilà, justement, ça crée un petit décalage. Et de toute manière, le film est entrecoupé. Plutôt que de faire un truc que réaliste ou que grand guignol ou que sérieux, en fait, il va y avoir un fil hyper sérieux avec une narration, une histoire, un début, un milieu, une fin. Et c'est entrecoupé donc à la fois de ces effets qui, je pense, sont volontairement très Ray Harryhausen pour montrer presque une forme un peu dystopique et quelque chose qui est à la limite du réel, mais ni complètement trop réaliste ni complètement fantasmé, comme ce qu'il fait avec les intermissions de pub. C'est-à-dire que pour moi c'est le même système, c'est-à-dire que quand il fait ces fausses images de propagande qui n'ont même pas complètement, alors je crois qu'elles ont le même ratio d'image mais elles n'ont pas le même grain pour créer vraiment une espèce de distance.
C'est l'image vidéo, c'est pas d'image pellicule.
Et en plus, il faut. Moi, je considère, même si il y a plein de portes d'entrée diverses et variées dans le cinéma de Paul Verhoeven, mais je considère que si on comprend le sens de la toute première scène de Robocop, on va comprendre de fait tous les films que Verhoeven a fait à Hollywood. Mmh. Et pourquoi ces films-là sont subversifs et pourquoi il ne faut pas les prendre au premier degré. C'est quoi cette première séquence? Bah, Sophie l'a dit, il y a plusieurs parenthèses publicitaires dans le film. On a plein cadre, vraiment comme si la caméra était collée contre la télévision, des images de publicité du Détroit de 2028. Et évidemment, ces images de publicité, elles ressemblent aux publicités qu'on peut voir à la télé américaine dans les années 80, juste le curseur de l'absurde, du décalage et du mauvais goût est poussé trois crans plus loin. Mais ça ressemble à quelque chose de bien réel.
Le jeu familial qui ressemble de base à un espèce de... entre une bataille navale et un puissance 4, mais version nucléaire et invasion. Genre on n'est pas loin d'une parodie des nuls, mais en vraiment plus grinçante. Quoi.
Il y a une parodie des nuls, c'est Scott Free. Hein.
Ben, c'est ça, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a cette ouverture qui est donc des images de télé, en l'occurrence un journal d'information, où on a un présentateur et une présentatrice qui ont l'air très affables, très sympathiques, et qui vont nous détailler avec une distance émotionnelle totale à quel point la ville de Détroit est en train de sombrer dans le crime, la violence et la noirceur. Et d'avoir, dès le départ, ces deux journalistes, tout guillerets, tout souriants, qui sont en train de nous expliquer que, vraiment, c'est la merde, il y a des gens qui meurent, personne n'y répond, c'est vraiment une catastrophe, et en plus, on est vraiment à un poil de cheveux de la guerre nucléaire. Bah, en fait, d'un seul coup, il y a forcément quelque chose qui se passe dans la tête du spectateur pour peu qu'on ait les yeux suffisamment ouverts et qu'on soit suffisamment concentré sur le film. Qu'est-ce qu'est en train de nous montrer Verhoeven ? Verhoeven est en train de nous montrer littéralement un décalage. Il est en train de faire étalage de tout un tas d'informations qui vont servir de contexte à son récit et qui sont des informations très graves et tragiques. Et il nous les présente, par le biais des journalistes, d'une manière qui est complètement hors de propos. Bon bah, vous avez tout le cinéma américain de Verhoeven résumé dans cette séquence-là, en fait. Verhoeven, il prend des films premier degré. En plus, il faut rappeler quand même que Ronald Reagan est encore président à l'époque. C'est la dernière ou avant-dernière année de son mandat. Mmh. Et Reagan, il a ramené sur le devant de la scène et de la culture américaine une espèce d'image un peu viriliste, militariste. C'est vraiment l'impérialisme américain. On est fiers d'être américains. C'est le meilleur pays du monde. Sur le papier, Robocop est un film qui glorifie ça, en fait. C'est vraiment, on a pris un flic, on en a fait un super flic, du coup, il peut défoncer les super méchants et tout le monde est content, tu vois. Et Verhoeven te dit dès le départ, non, si ce truc-là arrive, on va pas être content du tout.
En fait, ce qui est rigolo, c'est que il a confié que du coup c'était un des films dont il était le plus fier parce qu'il le considérait comme le plus abouti, un des plus aboutis en tout cas formellement et politiquement. Et ce qui est fou avec l'anecdote que tu racontais, Alexis, sur je l'avais jeté, puis ma femme elle a dit regarde, en fait c'est pas si mal, et que le cheminement dans la tête de Verhoeven de dire j'ai un script que je trouve fondamentalement pas terrible, politiquement je vais l'ancrer dans quoi, puis finalement mes inspirations ce sera Fritz Lang et Piet Mondrian pour en faire quelque chose. Et genre, je suis en mode, putain, on n'a pas tous le même cerveau. Hein. Genre, vraiment, il y en a, ils auraient dit, je vais faire un champ contre champ, un robot avec un gros costume. Lui, il fait, non, Fritz Lang.
C'est ça, non, mais en plus, c'est vrai, c'est les années 80, c'est l'ère des blockbusters un peu fadas. Désolé, s'il y en a des fans.
C'est
période-là.
C'est l'ère des Chuck Norris. C'est ça, les films de Chuck Norris. Hein. Si vous avez jamais vu Les Portées Disparues, accrochez-vous. Parce que...
mon grand-père adorait Chuck Norris. Hein. Vraiment,
Walker Texas Ranger. Et tout. Enfin, Walker Texas Ranger, c'est les années 90.
Ouais, c'est
quand il devient trop ringard pour le cinéma et qu'il termine dans la petite lucarne. Mais...
Non,
mais
puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que Verhoeven, et c'est pour ça qu'il faut, je disais un peu qu'il avait travaillé vite fait dans la propagande des armées, c'est qu'il est conscient et il assume que cette imagerie, elle a aussi quelque chose de séduisant. Et il n'essaye pas de la minorer. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas comme un militant un peu bas du front qui dirait « Vous savez quoi, c'est vraiment horrible tout ça ». C'est-à-dire qu'il dit « Non mais attendez, le problème, le danger là-dedans, c'est que c'est kiffant ». Le problème, c'est que quand Robocop, il sort de sa voiture, que t'as le thème qui se lance, je vais pas le chanter parce que sinon vous allez tous devoir aller à l'hôpital, et qui sort et qu'il éclate le service trois pièces d'un vilain violeur qui s'apprêtait à poivrer le péteux d'une innocente, c'est super jouissif. C'est super jouissif et pourtant, c'est ultra violent, c'est fasciste et le film arrive à te dire les deux. Il arrive à te dire, c'est dangereux. Et en même temps, tu y prends du plaisir. Comment ça se fait? Et c'est ça qui est intéressant, qui est fin. Et c'est là où il y a une place, à la fois, encore une fois, au plaisir de cinéphile ou même de spectateur, tous ces cons, hein, et à la réflexion, qui sont vertigineux.
Tu mentionnais tout à l'heure, Simon, la scène avec le bureaucrate qui se fait dézinguer. J'ai un fun fact, je crois que c'est vrai, hein, je vais revérifier l'info après, mais je crois que c'est vrai. Il y a un director's cut de Robocop que personne ne connaît, où en fait Verhoeven a rajouté 10 ou 15 secondes de ce mec qui se fait dérouiller. C'est juste 15 secondes de balle en plus dans le thorax, quoi.
Alors c'est concernant le director's cut, elles ont une minute d'écart. Et la, la minute, justement, se joue sur les séquences de violence. Il y a notamment, c'est le, au moment où Murphy se fait exploser la tronche par les brigands au début, qui est vraiment d'ailleurs une scène de mort atroce. Dans cette scène-là, il y a eu 2-3 bouts de plans qui ont été cutés.
Ou des inserts, je crois.
Des inserts qui ont été retirés aussi. Et si vous regardez le film sur Amazon Prime, puisqu'il est aussi disponible sur Amazon Prime, c'est la version complète qui a été mise en ligne. Donc à partir du moment où la version complète se retrouve sur une plateforme de SVOD, en général, c'est qu'on est passé à autre chose et c'est évidemment la version complète qui ressort en salle chez Splendor.
On parlait de l'aspect politique. Il y a un truc que j'aimerais qu'on réaborde un tout petit peu, c'est que on pourrait parler des effets spéciaux, on pourrait parler de la grammaire filmique des années 80, on pourrait parler même de, je sais pas, le grain ou quoi. Mais il y a quelque chose qui fait que pour moi, ce film aurait pu être fait hier et que je trouve incroyable. La notion de vouloir privatiser la police pour resécuriser une ville. Et si je me trompe pas, c'est parce que Détroit, c'est quand même devenu un peu ghetto, ce serait bien qu'on puisse réinstaller un petit peu des appartements de Richou, la gentrification. Donc la notion déjà de privatisation de services publics, on est aux États-Unis, c'est pas la même logique, mais quand même, c'est un Européen qui va aux États-Unis, qui parle de ce sujet-là, quand même, c'est pas rien. Pour parler de ça, on est en 1987, c'est un sujet qui est encore d'actualité en 2024 fois 1000.
Mais alors, petit point théorique, je vais faire de la simplification. S'il y a des spécialistes qui nous écoutent, bien sûr, c'est pour le dire à grands traits, mais il y a un truc qui est intéressant, on parle toujours, on parle souvent, vous avez dû entendre peut-être traiter le terme de libéralisme. Et prenons l'exemple d'un pays qu'on connaît, la France. Vous pouvez entendre souvent comme objection à « Tiens, il y a une politique libérale à France depuis, en France depuis des décennies. » Le « Mais attendez, vous rigolez, l'État est très puissant. L'État prélève plein d'impôts et l'État redistribue beaucoup. Donc non, on n'est pas dans du libéral. » En fait, ce dont parle Verhoeven et ce dont parle Robocop spécifiquement, ça n'est pas du libéralisme, ça n'est pas de l'ultra-libéralisme, qui en gros est le libéralisme avec des stéroïdes, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Ouais. Le néolibéralisme théorise qu'il y a besoin de l'État et que l'État est là, en fait, pour agencer ce qui a été public ou désigner des secteurs d'intérêt public pour ensuite les donner au privé et les donner à la découpe du privé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une vision du libéralisme qui théorise qu'elle a besoin d'un État fort pour jouer les arbitres et pour, en gros, créer des pôles de valeur, créer des pôles d'excellence, comme ce qui a été fait dans les années 90-2000, notamment avec le numérique et l'accès sur tout le territoire, sur le maillage du territoire français ou d'autres pays, au numérique, etc., pour ensuite permettre à des opérateurs privés de se l'accaparer. Le néolibéralisme, c'est donc un petit peu différent du libéralisme classique. Et c'est exactement ce qui se passe dans Robocop, où on voit une ville dans laquelle, pendant des décennies, on a sapé les services publics jusqu'à ce que les gens soient.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Légitimement révoltés contre leur gestion et acceptent tout à fait qu'on leur dise, vous savez quoi, la police, ils sont tellement mauvais, ces grosses feignasses, ils savent tellement pas gérer, c'est le privé qui va reprendre en main, vous allez voir, ça va être bien bien géré. Toute ressemblance avec l'éducation nationale serait
purement fortuite. C'est exactement ce que j'allais dire.
Ce qui est intéressant aussi, on parlait de Détroit. Détroit, c'est une ville qui... alors même si, fun fact, ça n'a pas été tourné à Détroit, ça a été tourné à Dallas. Mais peu importe.
J'aime
ça, c'est
bien ce genre de petit fact.
Ouais, et en plus, c'est vraiment Verhoeven, il a dit, c'est... Alors géométriquement, ça matchait mieux. Genre, ok, c'est bon. Ok, Polo, tout va bien. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, donc en 92, il y a Candyman qui sort.
Bien sûr.
Et en fait, je trouve que c'est les deux grands films qui vont cristalliser cette forme de désertion, de rapport à la police compliqué, à la forme même de mythe et d'histoire, parce qu'on va créer une figure quasi mythique qui est celle de Robocop, et la manière dont les médias vont en parler, en fait pour moi il y a un peu le même cheminement de pensée de que quand on parle de cette légende de Candyman, en fait on va créer des mythes qui viennent cristalliser la désertion de population, la violence, la tristesse, et comment en fait l'État vient se placer en espèce de d'ennemi absolu. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant dans la comparaison des deux. En fait, ça devient presque des formes de dystopie réelle. C'est un peu même si la dystopie se veut proche de la réalité, mais il y a des dystopies très lointaines, genre Brésil,
Mais en fait, dans le cas de la comparaison est intéressante avec Candyman, parce que dans le cas de Candyman, techniquement parlant, l'univers qui nous est présenté n'est pas du tout un univers dystopique ou futuriste. Ça se déroule dans le Chicago de l'époque de la sortie du film, qui est 92, c'est ça, merci. Sauf que au milieu de ce décor réel, on a cette figure fantomatique, ouais, étrange du Candyman qui vient complètement bousculer les rapports, enfin les repères entre réel et imaginaire. Là où Robocop, pour le coup, le film se passe dans le futur et clairement il y a un travail assez impressionnant de matte painting pour transformer complètement la topographie de la ville, etc. Malgré tout, bah, ça ressemble pas mal au Détroit complètement défavorisé en fait, et déglingué des années 80. En fait.
J'ai l'impression que y a ces grandes tours, il y a cette espèce de centre super urbain,
dynamique, moderne.
Ouais, moderne. Ouais. J'avais un autre mot en tête, mais il vient pas, donc c'est pas grave. On va rester ça sur dynamique et moderne. Et tout le reste est en train de se vider. On a vraiment toute la fin du film qui se passe dans cette espèce d'usine désaffectée. En fait, c'est peut-être ça l'imagerie qui me reste entre les deux films. C'est comment en fait une partie de la ville est devenue dangereuse, mais dangereuse pour qui en fait? C'est ça qui vient me questionner un petit peu, mais c'est Ah, et sinon, autre fun fact, c'est rigolo, donc la société de production, c'est Orion Production, qui 3 ans avant avait produit Terminator. Et en fait, Verhoeven, plutôt que de dire « je vais être dans la compète » ou quoi que ce soit, il va intégrer un morceau de la bande originale de Terminator pour assumer pleinement l'influence de Terminator sur son film. Et je trouve que c'est assez cool de sa part.
Cool, je savais pas. Ce qui est drôle, tu vois, je savais pas ce fun fact de la bande originale, mais ce qui est drôle, c'est que les deux films sont des inversions parfaites. C'est-à-dire que vraiment, Terminator, c'est un cyborg, vraiment un squelette robotique sur lequel on a mis de la chair humaine pour le faire passer pour un humain lambda, si tant est qu'un humain lambda ressemble à Arnold Schwarzenegger. Mais
qui a été envisagé pour le rôle, hein, d'ailleurs, pour Robocop. Hein.
Oui, ouais. Je sais. Et pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, là, ça aurait fait vraiment, par contre, ça aurait été grillé de fou.
C'est un peu doublon, là, voilà. Quand même,
mais
vous êtes sûr.
Le truc, c'est que Robocop, c'est l'exact inverse. D'abord, c'est un humain sur lequel on a greffé des parties robotiques. Donc, en fait, le parcours des personnages n'est pas du tout le même.
Alors, j'ai d'autres choses où...
J'ai un dernier
vas-y.
Fun fact.
Parce qu'après, j'ai deux dernières relances, mais vas-y.
Ok. Mais alors, c'est un fun fact juste pour faire plaisir à Simon. C'est un peu rigolo.
Il y a des dinosaures ?
Mais oui !
Mais non !
Mais si !
Oh, purée.
En fait, après Robocop, on a demandé à Verhoeven de travailler sur Dinosaur, le film d'animation.
Le Disney des années 90-2000, là ?
Exactement. Et ça devait être un film muet écrit par Wallen Green, le scénariste de La Horde Sauvage et du Convoi de la Peur.
What ?
Et en fait, finalement, le studio a été, je cite, « inquiet du résultat du projet
». Sachez que je viens d'une dimension où ce film a eu lieu et tous les enfants sont morts.
Et du coup, c'est 12 ans plus tard que le film Disney s'est fait.
Et il ne ressemble plus du tout à ce que devait être le projet, je pense.
Voilà. Donc, Verhoeven, Dinosaur, fun fact pour Simon.
Mais d'accord, Dinosaur, c'est le film en 3D où des dinosaures piétinent dans le désert pendant les 25, ouais.
Ah non, à un moment, il y a aussi un peu de.
Calme-toi.
Oui. Ouais. Il y a un peu d'herbe à un moment.
Non, mais en vrai, je l'aime bien ce film.
Mais franchement, vous imaginez le film fait par Verhoeven ? Par
le... Surtout, qui a eu l'idée de dire hey, les gars, pour Disney, si on proposait à Verhoeven de faire ce film ?
Et surtout, par le scénariste de La Horde Sauvage et du Convoi de la Peur, quoi.
J'ai deux dernières questions. La première, donc on parlait de Verhoeven incompris, Robocop incompris. Est-ce qu'une des formes de l'incompréhension, c'est pas aussi qu'il a eu plusieurs suites et un remake qui valent ce qu'ils valent? Qu'est-ce qu'ils valent?
La première suite, elle est formidable.
C'est vrai?
Ouais, elle est réalisée par un cinéaste plutôt talentueux. Donc,
Erwin Kirchner. Voilà. Et elle n'est pas au niveau du premier, c'est pas un chef-d'œuvre comme le premier Robocop, mais elle est intensément cool. Elle respecte tout à fait son message. Elle n'est pas aussi agressive, elle n'est pas machin, mais elle est tout à fait cohérente avec son message. Les effets spéciaux et le mélange de techniques est remarquable. Si vous voulez en savoir plus, allez fouiller dans les tréfonds du Twitter du Julien Dupuis, un des journalistes les plus, non seulement les plus passionnant, mais surtout les plus informés, les plus au fait des techniques d'effets spéciaux, qui avait un petit peu détaillé la richesse de certains plans. Je vais certainement pas prétendre faire aussi bien que lui, et encore moins lui pomper ses tweets, même si mon smartphone est tout près de moi. Bref, allez voir dans son fil Twitter, et il vous en parlera bien mieux que je ne pourrais le faire.
Ok, Robocop 2 et le 3.
Et le 3, tu sais, le 3, c'est comme... j'essaie de trouver un truc un peu obscène et sale à dire. Donc voilà, non, le 3, c'est vraiment, c'est pas bien.
C'est obscène et sale à dire.
Et le remake de 2014 avec Joel Kinnaman.
Écoute.
Non, arrête, ça peut me dire que c'est bien.
C'est loin d'être le pire remake du monde. Hein. Déjà, c'est réalisé par José Padilla. Et José Padilla, c'est pas un manche. Si vous avez pas vu Otage à NTB, c'est vachement bien Otage à NTB. Mais non, en fait, Le film est un remake malade, c'est-à-dire que tu sens qu'ils veulent faire un remake parce que la licence Robocop, bah, c'est devenu une licence culte et ça fait longtemps qu'elle n'existe plus sur grand écran. Bon, on va faire un remake, comme ça, ça remplira
les... C'était la grande époque des remakes à foison.
Voilà, et ça remplira les caisses du studio. Et ils ont eu quand même la bonne idée de mettre José Padilla, qui n'arrive pas toujours très bien à se démerder avec la mythologie très encombrante qu'on lui a mis dans les pattes, et surtout avec les acteurs cabotins qui viennent cachetonner les uns la suite des autres, notamment Samuel L. Jackson avec une perruque ignoble.
Parce que Joel Kinnaman, il est pas mal, moi j'aime bien.
Et Joel Kinnaman, il est pas mal. Non, en vrai, moi je trouve que la partie émotionnelle du film fonctionne plutôt pas trop mal. Moi j'ai le souvenir d'un film qui était quand même un peu plus orienté, un peu plus premier degré aussi, hein, mais un peu plus orienté sur le parcours du héros, qui essaye de renouer un peu avec son humanité, qui essaye de retrouver un petit peu l'humain enfoui sous la machine. C'était un peu plus prononcé, un peu plus baroque peut-être que dans le film de Verhoeven, où on va pas se mentir, cette ligne narrative là, aussi intéressante qu'elle soit, dans le film de Verhoeven, elle est quand même assez rapidement expédiée.
Ma famille, elle est plus là.
C'est pas ça qui l'intéresse.
Il a des souvenirs, du coup il redevient un peu humain et puis à la fin il triomphe des méchants.
Ma famille est plus là, bon.
Voilà. Et c'est pas ce qui l'intéresse le plus, effectivement, là où Padilla pour le coup va vraiment s'y intéresser. Moi j'ai le souvenir d'une série
politique
pas trop mal. Alors bah là par contre c'est moins fin quoi.
Et c'est marrant parce que tu cites José Padilla comme tout le monde le connaissait. Personne ne connaît ce monsieur, il a réalisé Trop d'élite 1 et 2. Il bah, a réalisé... pas d'élite. Et il a fait partie, mais c'était donc un an après, des gens qui ont réalisé des épisodes de Narcos. Mais donc à l'époque, José Padilla, c'est pas non plus un grand faiseur.
Non,
reconnu.
Mais tout comme...
Si, à l'époque, il a un statut du mec qui va peut-être devenir un gros actionneur très ouais. malin en fait.
Comme le remake de Robocop a pas des masses marché, bah, ça s'est arrêté là pour lui quoi.
Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose de contradictoire avec même le fait de vouloir faire des suites à Robocop?
Oui, d'accord. Mais comme beaucoup de choses, hein, il y a genre en vrai n'importe quelle saga d'horreur, est-ce qu'elle est vraiment amenée à faire une suite? Non. Parfois le 2 est nul, le 3 est bien. Et puis en fait.
Tu penses à Freddy là?
Toujours, je pense ouais. toujours à Freddy. Non, mais je veux dire, est-ce que je pense que de toute manière les studios vont toujours espérer qu'il y ait des suites. Mmh. Et après nous, on a juste à espérer qu'elles soient pas trop mal faites. Enfin, c'est que mercantile, mais de temps en temps, il y a des bonnes surprises. Hein. C'est pas. Et encore, je dis ça, j'en ai vu aucun. Hein, donc.
On se fera une session, on rattrapera le 2 tous les deux ensemble.
Ah, mais le 2 est vraiment cool.
On
est d'accord que dans le 2, c'est toujours
Black
Peter Wheeler.
Bien sûr.
Et ça change sur le 3ème, où ils ont pris un mec random.
Qui a été pris pour son menton. Voilà.
Oui, un gros
ouais.
il a un gros menton.
Ouais. Non, mais il a dit il avait le menton parfait, c'est pour ça qu'il a été casté, je cite.
Pour conclure tout ce passage sur Robocop, qu'on vous conseille d'aller voir en salle si vous le pouvez, bien évidemment, Alexis disait tout à l'heure, très justement, que c'est sans doute une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Verhoeven. Et moi, je pense que vraiment, c'est vrai. Tu as raison. Si on comprend Robocop, on peut comprendre toute sa filmographie. Si on commence ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus délicat, je ne sais pas. Cela étant dit, si jamais vous connaissez un petit peu Verhoeven, vous trois là autour de la table, quel serait le Verhoeven que vous conseillez, que les gens ne connaissent peut-être pas?
Bah écoute, moi je me permets de commencer. Moi, j'en ai deux, dont un qui n'existe pas.
Dinosaure.
Non, pas Dinosaure. non, mais évidemment, moi je suis un très 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 grand admirateur de Starship Troopers, qui est de loin mon Paul Verhoeven préféré et que je trouve vraiment être un immense film de science-fiction. Donc si vous n'avez pas vu Starship Troopers, moi je conseille d'ailleurs en général aux gens de faire Robocop et Starship Troopers à la suite, et comme ça les bases sont posées. Et donc ouais, moi je conseille Starship Troopers et évidemment comme tous les cinéphiles, je souffre beaucoup du fait qu'il n'ait jamais réalisé son film sur les croisades avec Arnold Schwarzenegger. Quoi.
Ouais.
Ça aurait été le probable. Je suis sûr que ça aurait été le meilleur film de sa carrière. Il a jamais pu le tourner, malheureusement.
Sophie.
Alors, la meilleure porte d'entrée pour moi, c'est celle avec laquelle j'ai commencé quand j'étais ado. C'est Basic Instinct. Pour moi, vraiment, c'est à la fois le sans doute celui qui a le moins de degrés de lecture. Compliqué ou qui demande plusieurs visionnages. En fait, il y a quelque chose d'assez facile d'accès dans Basic Instinct, parce que déjà, comme c'est un excellent polar, ça se regarde très facilement et de manière très agréable.
Et pour les gens qui connaissent déjà un petit peu Verhoeven mais qui connaissent pas toute sa filmographie, toi, ton préféré, celui que tu reconseilles vraiment comme étant celui à voir absolument?
Putain, c'est difficile.
Quoi, je parle d'intérêt à le préf, peut-être? Je sais pas.
Mais c'est parce que moi, mon préféré de cœur, c'est Elle. Mais je considère que c'est vraiment le plus compliqué à voir, notamment parce que c'est pas le plus parfait. Genre, vraiment, il y a des scènes en jeu vidéo qui sont compliquées.
Ah ouais? J'avais oublié.
Y a vraiment, ça, c'est vraiment un point noir. Et puis, faut accepter l'espèce de cabotinage. Il faut passer outre cette espèce de grain un peu gris qui est une parodie. Enfin, vraiment, le film est, je trouve, beaucoup plus, comme Benedetta, je trouve que c'est des films beaucoup plus compliqués à aborder. Mais, pour moi, mon préféré, ça serait sans doute Showgirls. Mmh, parce que c'est un film.
J'ai pas encore vu celui-là.
C'est un film hyper mal aimé. C'est un film outrancier, vulgaire, sur un féminin fort mais torturé, qui montre que le féminin fort, c'est pas du féminin parfait, mais c'est vraiment du féminin violent. C'est vraiment. Puis il y a sans doute la meilleure scène de sexe dans une piscine de l'histoire du cinéma, avec quel mec Lachlan. Franchement, ça vaut le détour.
D'ailleurs, si vous décidez quand même de découvrir Verhoeven par sa porte d'entrée française, donc par Elle et Benedetta, pour expliquer quand même grossièrement en quoi ça consiste, il faut imaginer des scénarios de films, dans le cas de Elle, d'une espèce de thriller psychanalytique assez
chabrolien,
torturé.
Chabrolien, Simon l'a bien dit.
Chabrolien, exactement. Et dans le cas de Benedetta, une espèce de film de non-exploitation un peu baroque. Et il faut imaginer ça tout en parodiant l'esthétique d'un mauvais téléfilm France 3. Voilà. Et c'est certainement la raison pour laquelle, auprès du public français, c'est des films qui, encore une fois, ne sont pas tout à fait bien compris.
Il faut imaginer quand même des scènes très paradoxales entre Laurent Lafitte et Isabelle Huppert. C'est vraiment un film compliqué.
C'est un film qui nécessite de prendre du recul sur ce qu'on voit, c'est s'interroger en permanence
c'est mon préféré,
ce qui se passe à l'écran.
C'est vraiment mon préféré, parce que je trouve que c'est un film, justement, sur le féminin. Parce qu'en fait, ça, c'est peut-être le seul truc, quand on parle toujours de male gaze et de female gaze, je dis toujours... Il n'y a personne qui filme le féminin comme George Miller et comme Paul Verhoeven. Et c'est-à-dire qu'il y a c'est un féminin absolu, presque transcendantal. En fait, elle va expliquer comment le féminin est multiple et comment le parcours... En fait, il a changé le titre du bouquin, ça s'appelle Elle, parce qu'il parle d'un personnage unique, qui a des réactions uniques et que tout le monde ne réagit pas de la même manière face au trauma. Et j'avais eu la chance d'interviewer Verhoeven pour Elle, d'ailleurs. J'avais une question en table ronde, mais ça, c'est le plus beau jour de ma vie.
Bravo à toi. Simon, pour les gens qui nous écoutent, les jeunes cinéphiles qui auraient vu un ou deux longs, toi, le film que tu recommandes absolument à voir et à rattraper?
Moi aussi, il y en a deux que je recommande absolument. Il y a d'un côté Black Book, qui pour moi est à date son dernier incroyable chef-d'œuvre. J'ai beau adorer Elle, pour moi Black Book est un film gigantesque. Je disais qu'il était hollandais, c'est un film sur la résistance aux Pays-Bas, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où on va suivre... c'est le film qui a révélé Carice Van Houten, qui
qu'on a connu
été...
en sorcière rousse dans Game of Thrones.
Dans Game of Thrones, et je reviendrai après à Game of Thrones. Donc Carice Van Houten, c'est son premier rôle très connu. Et c'est absolument incroyable, c'est donc l'histoire d'une jeune résistante juive qui va infiltrer l'état-major nazi allemand, donc aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce que je vais vous dire, c'est les premières minutes du film, va tomber folle amoureuse d'un dignitaire nazi qui lui tombe fou amoureux d'elle et comprend immédiatement que elle est infiltrée. Et donc, tous deux vont tenter de se sauver. Et comme toujours, il va y avoir la volonté de Verhoeven de interroger les formes que nous connaissons, c'est-à-dire que les résistants, tout résistant ou nazi qu'il soit, sont pas toujours d'une humanité et très bien intentionnés. Et les nazis, pour tout nazi qu'il soit, sont aussi des humains. Et donc, il va tout brouiller et questionner notre rapport à la morale et à l'éthique. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et il y a une séquence de peinture de pubis qui est assez remarquable. Je le dis en plus, premier degré, vraiment. Et puis, il y a un autre film dont il faut parler, c'est La chair et le sang. 1985, c'est le film qui fait passer Game of Thrones pour un rêve érotique de Peppa Pig.
Un rêve érotique de Peppa Pig.
Je sais pas ce que ça veut dire. Et mais très sérieusement, La chair et le sang, c'est donc un film qui se passe entre la fin du Moyen Âge et avant que la Renaissance arrive. En gros, quand on sait pas trop dans quelle époque on va et où les monstres surgissent, c'est une histoire. Mais vraiment, c'est une source d'inspiration de Game of Thrones évidente. Clairement, Benioff et machin. On se sont dit, plus personne ne se rappelle du film. On va le refaire pendant 8 saisons. Rutger Hauer, qui est donc un mélange de soldats et de mercenaires, qui va prendre une petite ville pour un seigneur et qui va se retrouver au milieu de plein d'intérêts divergents et d'une proto-châtelaine divergente. Et diverge, c'est énorme. Et voilà, c'est un film qui est ultra...
à rebours.
Lui aussi. C'est un film qui est... ultra violent, extrêmement fin, pourtant singulièrement bourrin, invraisemblablement bien mis en scène et qui est encore une fois sur toute l'ambiguïté morale de notre regard de cette époque. C'est incroyable, La chair et le sang.
Et d'ailleurs, il paraît que Paul Verhoeven, alors la rumeur n'a pas été confirmée, elle date de janvier 2024, donc c'est un truc relativement récent, mais il paraît que Paul Verhoeven serait apparemment chaud pour repartir aux États-Unis. Pour refaire un thriller érotique, toujours, à nouveau, avec Edward Neumeyer à l'écriture. Donc j'espère que ça va se confirmer. Cannes 2025, on croise les doigts.
Si, c'est ça. Si tu nous entends, il nous écoute pas. Hein.
Non, je pense pas qu'il nous écoute, mais si jamais il nous écoute,
jamais
on l'embrasse.
Si jamais quelqu'un le connaît et nous écoute, dis-lui qu'on est grave chaud.
Dis-lui qu'on l'embrasse.
Virginie, envoie-lui un petit mail.
Moi, de ma part, je conseillerais un film qui est très peu cité, pas assez connu, je pense, peut-être parce que difficile d'accès, purement légalement, hein, difficile de se le procurer. C'est un film sorti en 77 qui s'appelle Soldier of Orange, qui a été, moi, je pense, une de mes plus grandes claques de mon marathon Verhoeven juste avant le Cannes avec, où il y avait Benedetta, où je me suis fait toute sa filmo. Le pitch est très simple sur le papier, mais la richesse et l'humanité qui en dégage est fou. Et surtout quand on connaît Verhoeven, c'est six potes, ils sont bien, ils sont à la fac, tout va bien. Puis il y a les nazis qui arrivent. Et t'as des copains qui vont aller d'un côté, et t'en as qui vont aller de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens se recroisent? Et qu'est-ce qui se passe quand les gens se confrontent? Ça dure 2h30, c'est incroyable. Et c'est encore avec Rutger Hauer.
Qui est son acteur fétiche.
Bah oui.
Ouais. Et qu'on embrasse.
Qu'on adore Rutger Hauer.
Qu'on adore. Et non, c'est bouleversant, c'est magnifique. C'est peut-être celui qui va être le moins, entre guillemets, dans ses connus, hein, dans ce qu'on kiffera. Enfin, c'est peut-être le film de transition où il va un peu essayer d'aller maintenant vers des films avec plus de messages et plus de sous-entendus, où il va plus travailler sa narration. Là, c'est plus linéaire, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est déchirant. Et vraiment, moi, j'ai un souvenir d'avoir beaucoup pleuré, avant de grande surprise, devant Soldier of Orange. Voilà, Verhoeven, Robocop. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt donc Robocop ou Robot Geisha, qui est donc une ref de qui parle, je pense, que à Nico, puisque c'est apparemment un film de Nobuo Higashi. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes aussi vieux et aussi bizarre que Nico. Ça nous plaît toujours. Avant de parler d'une petite carte blanche qui va devenir redondante, mais moi j'adore ça, demain sortira un nouvel épisode dans notre formule Acast Plus. Je crois que c'est encore Sophie.
Bah oui, parce que moi je les sors par deux, mes épisodes.
Tu les sors par deux.
Parce que
donc là, c'est la partie 2.
C'est la partie 2.
Explique-nous.
En gros, c'est la partie avec spoiler. Genre, j'ai eu la chance d'enregistrer avec trois invités incroyables. Macha qui fait de la BD, Sébastien qui est podcasteur, jeune papa, on en parle beaucoup, et un incroyable fan de jeux de société, et pareil, il en parle beaucoup aussi. Et Camille Giry, dont je vous ai conseillé le spectacle, et vous la connaissez sans doute pour son duo sur Instagram Camille et Justine, et on a parlé du coup en détail de Ted Lasso, de la fin de la saison 3, des amours, des amitiés, de l'évolution des personnages, du masculin, de la virilité, de la sororité. C'est vraiment une série feel good et coup de cœur, et ça a été un super enregistrement.
Trop
merci
bien
à eux.
Et ben trop bien, si vous nous êtes abonnés, vous saurez que vous allez avoir donc cette deuxième partie de l'art spoiler. Petit rappel avant la carte blanche, parce que je fais ce que je veux, c'est moi qui ai les mains du truc là, vous êtes obligés de me suivre. Le 27 avril prochain, nous serons à la ferme du Buisson pour un enregistrement en public,
ouais.
Où on parlera de Birdman, où visiblement il y a des gens qui n'aiment pas ce film, ce que je ne comprends pas. Ça risque de s'engueuler sur scène.
Oui.
Venez, parce que je pense que du coup ça risque d'être un peu rigolo. Facile d'accès en RER.
Facile sur le RER A.
RER A, station Noisiel.
Exactement.
Et c'est 10 minutes à pied, je crois, de la station.
Mais même pas. Genre, c'est vraiment en face du métro. On traverse la rue et on y arrive, quoi. Et c'est le lieu est magnifique. Ça va durer à peu près une heure, plus ou moins. Et il y aura des extraits, il y aura du débat. Ça va être incroyable.
Et je précise que si vous êtes bel et bien là lors de l'enregistrement à la ferme du Buisson, vous êtes chanceux, puisqu'on ne diffusera pas le film.
Et aussi, dernier point, si vous nous écoutez, sachez que c'est gratuit. Et ouais, c'est super important de le préciser. Vous n'avez qu'à réserver votre place sur le site de la ferme du Buisson, parce que vous avez besoin d'une réservation, mais pas de payer. C'est quand même dingue.
Et je ne vais pas laisser Alexis terminer sur une note aussi négative. Je vous conseille quand même de voir le film avant de venir, parce que c'est quand même toujours plus intéressant de savoir de quoi on parle. Mais venez,
pourquoi
vous
c'est
êtes
pas très bien.
Les bienvenus. Ferme ta bouche. Pour terminer cette carte blanche patrimoine, je me l'auto-approprie parce que je fais ce que je veux.
Très bien.
Et il se trouve que ça y est, j'en vois un peu le bout. Il m'en reste plus que 12.
Très bien.
Ah,
il m'en reste
plus
que 12.
Comme il n'y a pas de contexte, c'est à mourir de rire. Tu veux dire, mais je t'en prie.
Je me suis
que
lancé.
12, donc.
Que 12, il m'en reste plus que 12. C'est bon, j'en vois le bout. Ça y est, c'est bientôt fini. J'ai commencé il y a un peu plus d'un mois un marathon un peu débile où je me suis dit putain, c'est quand même bête, je vais bientôt à Cannes. Et sur les 100 palmes qu'il y a eu, parce qu'il y a eu 100 palmes, ça a beau être la 77e édition, vu qu'il y a eu des moments où ils ont fait un peu n'importe quoi,
notamment en 47 où ils ont donné 13. On en est à la centième. J'en avais vu même pas 30. Je me suis dit, quand même, ce serait bien que je la rattrape pour ma culture. On m'a toujours dit, les palmes, c'est souvent à chier, tu verras. Spoiler, non. Il y a quand même beaucoup de vrais bons films, voire d'excellents longs-métrages. Et donc, ça fait 2-3 fois que je vous raconte mes aventures et je voudrais revenir un petit peu parce que là, je crois que ça fait quasiment 3 semaines que je ne vous en ai pas parlé. Je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était le 22 mars. Autant dire que depuis, j'en ai vu au moins 25 ou 30. J'en peux plus de ma vie, les amis.
Mais tu dors quand ?
Je dors pas beaucoup. Je dors pas beaucoup. Je vais aller très vite. Encore une fois, les palmes pas intéressantes, ça sert à rien d'en parler. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de parler des films que je n'avais pas vu venir. Alors, par exemple, il y a ce réalisateur qu'on connaît, franco-grec. Son nom vous dit quelque chose, non ? Mais parce que son fils aussi fait quelques petits trucs, notamment sur Netflix. Mais pour moi, Costa Gavras, c'est un réalisateur qui était connu pour un film qui s'appelle Z, qui est un film important, hein, un film parano des années 70, etc. Sauf que ce qu'on sait moins, c'est qu'il a eu une palme d'or en 82 pour un film avec Jack Lemmon. 82, Jack Lemmon, il a déjà bien la soixantaine bien frappé. Un film qui s'appelle Missing et qui est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, tous les trois là, je vous regarde. Vous aimeriez énormément ce film. C'est l'histoire...
J'ai eu de la tête, mais je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu ? C'est l'histoire d'un couple qui sont installés au Chili. La femme est interprétée par Sissi Spacek, que vous connaissez comme étant notre Carrie nationale, la vraie, l'originale. Au moment où il se passe des trucs un peu bizarres politiquement, où la police devient de plus en plus féroce, et puis d'un seul coup, elle part, et elle revient, et son mari a disparu. Et donc, le père arrive des États-Unis pour l'aider, pour aller chercher leur fils. Et on finit par comprendre qu'il y a une espèce de... Pas de complot, mais... Putain, ce coup d'État, il est bizarre. Peut-être que les Américains sont impliqués. Putain, c'est bizarre. Peut-être que le fils a découvert que les Américains sont impliqués. Non, c'est bizarre. Les Américains n'aident pas beaucoup la famille à retrouver cet Américain. C'est glaçant. C'est très impressionnant. Et encore une fois, quand on parle de Costa Gavras, on ne parle jamais de Missing, alors qu'il y a quand même une palme d'or. Donc ça, je me le suis pris vraiment en pleine poire. Bon, je me suis pris une autre grosse pêche parce que j'essaie de varier les fruits. Mais bon, ça, c'est un peu plus classique. J'avais jamais vu Le Troisième Homme de Carol Reed, qui est incroyable de mise en scène et de photos. Je ne comprends pas comment ils ont pu filmer tous ces plans dans les égouts. Je ne comprends pas ce qu'il a pu faire. On connaît plus Orson Welles, réalisateur qu'acteur, mais il est glaçant. C'est incroyable. Je ne vais pas en dire 15 000 mots, hein, c'est culte, vous connaissez sans doute si vous m'écoutez. Évidemment que c'est une excellente palme. Et pour conclure un peu, parce que j'en ai vraiment vu 30 et voilà, une que je n'avais pas vu beaucoup citée, et à tort. Non, deux. Tu sais quoi, je vais terminer sur deux. Je m'en fous.
Allez, vas-y.
Je contrôle la mission, je m'en fous, moi.
T'es un gueudin.
Je suis un dingue. Deux, alors j'aimerais commencer par celle que j'ai découverte hier, à l'heure où je vous parle. Qui est un film vraiment d'apparence, je pensais avoir... J'avais une flemme monumentale. Palme d'or de 96, un certain Mike Lee, Secret et mensonge. Pouah ! Pouah, la puissance du drama. Mais alors, je te regarde, Sophie, parce que tu l'as pas vu du coup.
Non.
Tu serais folle du film, je pense. C'est. Simon, tu l'as vu, toi ?
Oui.
Est-ce qu'on spoil ou pas ? Parce que je vois que c'est dans le synopsis, mais pour moi. Qui n'avait pas lu le synopsis.
Alors, j'ai jamais lu le synopsis, donc je saurais pas te dire, mais pour moi, il faut pas spoiler.
Il faut pas spoiler. Ok, bon, dans ces cas-là, ne lisez pas le synopsis et prenez-vous d'amour, comme ça a été pour mon cas avec Cynthia et ses petits sweethearts qu'elle lâche à chaque putain de phrase. C'est une histoire familiale. C'est juste une histoire familiale et ça remoue des trucs qui, en plus, chez moi, résonnent un petit peu sur le secret familial, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, quel impact ça a et comment on dit les choses. Comment on verbalise et quel impact ça va avoir. Enfin, franchement, c'est simple. C'est pas une grande réalisation. C'est un film d'actrice. Les actrices sont incroyables. Vraiment, Brenda Blethyn, elle est folle. Et je trouve que c'est d'une justesse d'écriture qui, toi, je pense, Sophie, vraiment, 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 ça va
tu
toucher.
Tu m'as hypé. Hein.
Et qui sait, on aura peut-être un Mike Lee à Cannes cette année. Donc
ouais, parce qu'il est dans, il est dans la shortlist.
R-Truth devait être dans, était un des évidents de la compétition. Il n'y est pas. Il sera sans doute dans les rajouts. Ça y ressemble fortement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, l'actrice qui joue... Une des actrices principales de Secret et Mensonges, Marianne Jean-Baptiste, et l'actrice principale de R-Truth qui devrait être à Cannes cette année. Donc voilà, Secret et Mensonge, très beau moment. Et enfin, je conclurai ce petit
J'espère peut-être le dernier, ma dernière carte blanche Cannes.
Peut-être.
Parce qu'il faut savoir que juste après ce marathon, j'entame un marathon sur les films que je dois rattraper pour connaître les filmos des gens qui sont à Cannes. C'est encore une autre affaire, encore une autre affaire. Non, j'aimerais parler d'un film, pour le coup, que je ne connaissais absolument pas, dont je n'avais jamais entendu parler. Palme d'Or de 79, si je ne me trompe pas. Palme d'Or ex aequo avec Apocalypse Now, si je ne me trompe pas. Le tambour.
Le tambour de Volker Schlöndorff.
Comment tu dis ?
Volker Schlöndorff.
Volker Schlöndorff.
Est-ce que tu
l'as déjà vu ?
Non, je l'ai jamais vu.
C'est exceptionnel. C'est un mélange entre Benjamin Button et je vois Simon qui rigole. Mais
oui,
c'est non, pour
c'est
que
j'aurais pas pensé, mais oui.
Bah oui, c'est un mélange. Il y a un côté mélange entre Benjamin Button et Underground de Kusturica pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il comprend que les adultes sont bêtes et que le monde il a l'air cruel et il dit je ne veux plus grandir et donc il se provoque un accident qui fait qu'il reste. Il aura 3 ans toute sa vie. Et en fait, il va donc vivre l'arrivée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe après le nazisme, entremêlé de rencontres avec une troupe de théâtre, de personnes de petite taille, entremêlé de l'arrivée d'une babysitter qui va devenir son amante et qui va devenir l'amante du père. C'est un destin fou, c'est une photo qui est sublime. Et c'est pareil, encore une fois, de l'écriture. Vous savez, c'est ce qui me touche le plus. Et là, l'écriture du film, elle est incroyable. Je l'ai acheté en Blu-ray, en édition Criterion. Une édition région B pour ceux que ça intéresse, il est disponible. C'est sublime, vraiment. Je vous jure que c'est vraiment. Je l'ai vu et donc je l'ai vu vraiment hier. Donc je l'ai vu, c'était ma 88e palme. Il y a un moment où normalement ton top il est bien établi, tu comprends un peu quels sont tes préférés ou quoi. Ouais, bah il est monté direct dans le top 10 d'office et sans aucun problème. Donc vraiment, le tambour de Volker Schlöndorff, une bonne grosse clacasse comme on les aime. Voilà.
C'est
tout
fini pour aujourd'hui.
On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'une petite guéguerre pas cool.
Bah, c'est vendredi prochain, en fait.
Ouais, mais en fait, on enregistre le 11. Oui, bref. On se retrouve dans quelques heures, quelques jours, pas plus. On parlera d'une guerre civile, d'un singe qui fout des patates. Et on parle de quoi d'autre ?
De comment les Corses gèrent la prison.
Ah oui, oui.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ça.
Mal, voilà. Je voulais la réponse.
Et je vais terminer en lisant Le conducteur de Nicolas. Et attention, je vais faire mon meilleur jeu d'acteur parce qu'il a écrit, je pense, mi pour lui, mi pour moi, je ne sais pas. Bye les amis et gloire au. C'est quoi ? Merci, c'est gentil. C'est un billet. Oh non, 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 les gars, soyez cool, j'en peux plus manger des blettes crues. Je vous fais un chèque, un truc, je renonce à mes droits. Non, pas la bourboule !
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.